Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi l'itinérance est-elle en hausse à Longueuil? Un texte de Marco Forti paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir. Sébastien, 42 ans, a fait le tour du Québec avant d'échouer dans la passerelle chauffée qui relie le métro Longueuil et une des tours d'habitation voisines. Cet homme sans domicile a erré à Chicoutimi, à Québec et à Montréal, avant d'aboutir de l'autre côté du pont Jacques-Cartier en 2024. J'ai fait une psychose et j'ai eu des services d'aide ici, raconte cet itinérant. Il se considère chez lui à Longueuil, même s'il vit dans la rue ou dans une tente, avec Valérie, sa conjointe, enceinte de 7 mois. Le couple est en bonne compagnie dans les alentours du métro Longueuil. Le centre-ville de Montréal est peuplé par un nombre grandissant de personnes itinérantes qui ne savent plus où aller tellement les refuges sont sollicités. Plusieurs proviennent des quatre coins du Québec. Ça bouge, une personne itinérante. Autrefois, banlieue dortoir, Longueuil vit les mêmes défis que Montréal. Les prix du logement ont explosé et la santé mentale d'un grand nombre de personnes s'est dégradée depuis la pandémie. La ville de la Rive-Sud est même devenue une plaque tournante de l'itinérance dans la région. Les services sociaux surveillent 17 campements de personnes itinérantes à Longueuil et un total de 23 dans l'agglomération longueuilloise qui regroupe 4 autres villes, soit Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville. La proximité de Montréal et le peu de ressources pour les personnes en situation d'itinérance en Montérégie créent des conditions propices à une augmentation de leur présence à Longueuil, indique le cabinet de la mairesse Catherine Fournier. Autrement dit, les itinérants de Montréal et d'ailleurs au Québec viennent trouver refuge à Longueuil. C'est pour ça que les ressources d'aide de la plus grande ville de la Rive-Sud sont débordées. Les itinérants se retrouvent à côtoyer le monde ordinaire dans des espaces publics comme le métro, les centres commerciaux et l'entrée de commerce et d'immeubles de logement. Une présence dérangeante. Tant qu'elles vivent dans des tentes dans le parc Marie-Victorin, le long du fleuve ou dans d'autres espaces isolés, les personnes sans-abri laissent à peu près tout le monde indifférent. Mais lorsque le public les côtoie au quotidien, les appels à la résolution du problème de l'itinérance se font plus insistants, constatent des intervenants de terrain. On doit redéfinir la notion de citoyenneté. Les personnes itinérantes ont le droit de se trouver dans l'espace public, a indiqué Sue Anne McDonald, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal, dans une entrevue récente avec Le Devoir. Elle a dirigé l'ouvrage collectif « L'itinérance au Québec, réalité, rupture et citoyenneté » publié récemment. Une des leçons de cet essai est qu'il faut s'habituer à côtoyer des personnes itinérantes parce que le phénomène ne semble pas en voie de se résorber. Les experts ayant contribué au livre appellent même à une participation des personnes sans-abri aux lieux de pouvoir pour adapter les espaces publics à la réalité de l'itinérance. Pourquoi on n'aurait pas une place pour aller se reposer dans les centres d'achat quand on gèle dehors? Lance Sébastien, qui passe ses journées à se faire expulser d'un lieu public à un autre. Petit miracle quotidien. La ville de Longueuil et le Centre intégré de santé et de services sociaux, CI3S, redoublent d'efforts pour accompagner les personnes itinérantes. Des intervenants de l'équipe Proximité, accompagnés de policiers communautaires, font le tour des tentes pour inciter les campeurs à dormir au chaud dans les refuges. Les campements ne sont pas démantelés, à moins que la sécurité des occupants ou des voisins soit menacée. Les travailleurs de rue distribuent des trousses hivernales garnies de gants, de tuques, de couvertures thermiques, de chaussettes, de chauffe-mains et de chauffe-pieds. Une halte chaleur de nuit d'une vingtaine de places a ouvert sous le pont Jacques-Cartier pour un 5e hiver de suite. Des lits d'urgence ont aussi été ajoutés dans des refuges comme la halte du coin et l'abri de la Rive-Sud. Des lits temporaires sont offerts dans des logements à vocation sociale, y compris dans des immeubles d'appartements de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, souligne Marie-Françoise Fayol, coordonnatrice des services à la communauté au CI3S de la Montérégie-Est. Les intervenants font parfois de petits miracles. On nous dit que Valérie, la femme enceinte de 7 mois qui erre habituellement autour du métro Longueuil, est réfugiée en lieu sûr pour donner naissance à son bébé. Un répit doublement salutaire malgré l'avenir incertain qui guette la mère et l'enfant. C'était « Pourquoi l'itinérance est-elle en hausse à Longueuil ?» un texte de Marco Fortier paru le 29 janvier 2025 dans Le Devoir.
Origine du mois de l'histoire des Noirs. Un texte de la rédaction paru le 1er février 2025 sur la page de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Historique du mois de l'histoire des Noirs. Né aux États-Unis en 1875 et décédé en 1950, Dr. Carter G. Woodson fut l'instigateur de la Semaine des Noirs en février 1926, la Negro History Week. Le mois de février fut choisi parce qu'il correspondait au mois d'anniversaire de naissance de deux grands abolitionnistes de l'esclavage, Frederick Douglass et Abraham Lincoln. Cet historien a révélé à travers sa carrière et ses œuvres une autre version de l'histoire. Il fut le créateur d'un courant d'analyse plus scientifique des contributions des Noirs à l'histoire universelle. Il combattit, par la recherche et l'éducation, le racisme et les préjugés de la société. Son plus grand rêve était d'intégrer l'histoire africaine dans les programmes d'études des écoles. Pour lui, il ne suffisait pas que l'histoire africaine fasse l'objet d'un enseignement scolaire, mais il fallait aussi que l'instruction soit faite dans le respect et de manière plus sensible à la diversité. La Semaine des Noirs devint le mois de l'histoire des Noirs en 1976, dans le cadre des festivités du bicentenaire américain. Cet événement visait à commémorer d'une manière plus fidèle et plus objective l'histoire des Noirs. Il est aujourd'hui célébré dans les plus grands centres urbains en Amérique du Nord, en Afrique, en France, aux Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le mois de l'histoire des Noirs au Québec. Le 23 novembre 2006, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi visant à faire du mois de février le mois de l'histoire des Noirs, afin de souligner la contribution historique des communautés noires à la société québécoise. Cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2007. Par l'adoption de la loi proclamant le mois de l'histoire des Noirs, le gouvernement du Québec entend non seulement ajouter sa voix au mouvement nord-américain soulignant l'apport des citoyennes et des citoyens des communautés noires, mais désire reconnaître officiellement l'importance de cet événement annuel pour l'ensemble de la société québécoise. L'adoption de cette loi est aussi, pour le gouvernement du Québec, l'occasion de concrétiser une des recommandations du rapport du groupe de travail chargé de conduire, à l'automne 2005, une consultation sur la participation à la société québécoise des communautés noires. Au cours de cette consultation, bon nombre de citoyens des communautés noires ont souligné l'importance de prendre en compte l'apport des Noirs dans la mémoire collective ainsi que d'améliorer leur image au sein de la société. Depuis plus de 300 ans, les générations successives de Québécoises et de Québécois des communautés noires font profiter le Québec de leur savoir-faire, de leur talent et de leur vision dans toutes les sphères d'activité. Cette loi permet à l'ensemble de la société québécoise d'exprimer officiellement sa volonté de mettre en lumière la contribution essentielle des personnes des communautés noires au développement du Québec. Rappelons que le mois de l'histoire des Noirs est déjà souligné annuellement au Québec et dans plusieurs régions du monde par diverses institutions publiques, privées et communautaires. Au Québec, la table ronde du mois de l'histoire des Noirs organise depuis 30 ans des activités qui permettent à la population québécoise de découvrir la richesse et la diversité des communautés noires et de rendre hommage aux personnes qui se sont illustrées dans différents domaines. Source : Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. C'était « Origine du mois de l'histoire des Noirs », un texte de la rédaction paru en février 2025 sur la page de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs.
C'est quoi un bon logo et combien ça coûte? Un texte de Marc Tison, paru le 16 mars 2024 dans la presse. Le 30 mars 1981, le maire Jean Drapeau avait dévoilé la nouvelle identité visuelle de la ville de Montréal, une rosace rouge sur fond blanc. Dans les médias, l'éclat de la présentation avait été en partie terni par l'attentat contre le président Ronald Reagan, survenu le même jour, et par la facture de 360 000 $, 1,2 million en dollars de 2024, du créateur du logo, le graphiste Georges Huel. Quelques jours plus tard, dans la presse, le journaliste Guy Pinard relevait qu'en 1977, un collaborateur de longue date de Georges Huel avait conçu un logo analogue pour une caisse populaire. Son coût, 7 000 $. Dans le déferlement de comparaisons plus ou moins boiteuses qui s'ensuivit, un autre article a mentionné un moule à pâte à modeler en plastique de forme similaire qui, lui, n'avait coûté que 69 cents. Pourtant, plus de 40 ans plus tard, la rosace persiste et signe. C'est un excellent logo. Il a très bien passé le temps, constate Hélène Godin, présidente directrice générale de La Factory, École des sciences de la créativité. Cette opinion est partagée par Catherine Damour, professeure chercheuse à l'École de design de l'UQAM, designer et artiste multidisciplinaire. Pour moi, c'est un logo qui a bien vieilli, juge-t-elle. Ce logo a coûté extrêmement cher, relève-t-elle. C'était énorme pour l'époque. Mais je pense que c'est un travail qui a été fait avec différentes étapes dans le processus de création, et ces étapes lui ont permis d'être bien pensée et d'avoir une stratégie qui lui permettait de bien évoluer dans le temps. Qu'est-ce qu'un bon logo? Pourquoi dure-t-il? Un logo comme une personne. Un logo n'existe pas dans l'absolu. Une identité ne se résume pas à un joli dessin. Un logo, ça s'inscrit dans un système identitaire, formule Catherine Damour. Souvent, on pense qu'un logo, ça vit tout seul et ça se dessine sur un coin de table. Bien au contraire, ça s'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui va servir à véhiculer beaucoup plus qu'une marque, un système de valeurs. Hélène Godin aime comparer une marque à une personne. On va dire d'une personne qu'elle est cohérente dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Une marque, c'est un peu la même chose. D'abord designer graphique, elle avait travaillé chez Cossette et été directrice de création chez Sidley. Une marque, c'est un ensemble vivant et complexe, formé d'images, de mots, de comportements, explique-t-elle. Comme une personne, la marque évolue. Son identité se confirme et s'affirme. La valeur d'une marque se définit dans le temps. Si on compare une marque à une personne, elle pourrait dire que sa valeur grandit au fur et à mesure de ses actions. Elle réside dans l'originalité de sa proposition de valeur. Qu'apporte-t-elle au monde? Demande Hélène Godin. Cette proposition doit se concrétiser dans un symbole graphique efficace. Les créateurs y parviennent avec méthode. Un logo à dessin. Telle une personne, un logo a des intentions. Pour les réaliser, il lui faut montrer des qualités précises. Ce caractère bien trempé apparaît au fil d'une rigoureuse démarche. des vertus essentielles. Pour être efficace, un logo doit présenter une demi-douzaine de caractéristiques, estime Catherine Damour, professeure chercheuse à l'École de design de l'UQAM. Simple, un logo doit être simple. La simplicité va lui permettre d'être reconnu et mémorisé facilement. Cohérent et pertinent. Il doit parler le même langage que le secteur d'activité dans lequel il s'inscrit, donc communiquer les bonnes valeurs et s'adresser au bon public cible. Si je crée une identité pour une marque de chaussures ou pour une entreprise du milieu financier, elle doit être cohérente avec son industrie. Adaptable et polyvalent. Aujourd'hui, il y a une multitude d'applications et de supports de communication sur lesquels le logo doit vivre, sur lesquels le système identitaire doit se déployer. Il doit absolument pouvoir s'adapter facilement. Authentique et distinctif. Il doit être distinctif, unique, pour se démarquer des autres. On est dans une société où il y a surabondance d'images, d'identités, de marques, d'industries et de produits. L'authenticité de la signature va vraiment jouer. Durable. Une identité et un logo doivent s'inscrire dans des valeurs intemporelles pour rester pertinents sur le long terme. Il doit donc sortir des courants ou des tendances. Il y a d'autres supports de communication qui peuvent s'inscrire dans les tendances, mais le logo, lui, doit être intemporel. Holistique. Le logo doit s'intégrer de façon holistique, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une vision d'ensemble où chaque élément, chaque support de communication va contribuer à l'expérience de la marque. Accessible et responsable. Dans tout projet d'identité, je pense nécessaire d'amener aujourd'hui une réflexion sur les enjeux contemporains. Une identité en 2024 ne devrait pas être qu'un logo. Elle devrait raconter une histoire, intégrer les communautés dans le processus de design, devenir participative et avoir une posture responsable. Il faut que la marque soit cohérente avec ses valeurs et sa mission première. Aujourd'hui, une marque peut se faire clouer au pilori en trois clics par les consommateurs si elle n'agit pas en bonne citoyenne. Sa valeur peut chuter aussi rapidement que le prix de la COP, comme dirait Richard Desjardins. En contrepartie, la valeur d'une marque qui entretient un dialogue cohérent et authentique peut avoir un effet de levier envers les consommateurs, mais aussi envers ses employés. Et ça, ça a beaucoup de valeur, affirme Hélène Godin. Une démarche structurée. Ces caractéristiques émergent d'une relation suivie et d'une démarche bien structurée, énonce encore Catherine Damour. L'écoute préliminaire. Un bon logo, ça passe d'abord par une relation d'écoute entre l'entreprise et l'équipe de création qui va s'engager dans le processus, exprime-t-elle. S'il n'y a pas cette relation de confiance à la base, le travail de réflexion et de création ne sera pas aussi pertinent. La recherche. Il faut ensuite réunir l'information qui va guider les créateurs. Ces recherches seront réalisées dans l'entreprise, recueillir l'avis des gens qui travaillent pour cette entreprise et faire des études auprès de sa clientèle cible, mais il faudra également faire une recherche poussée sur les compétiteurs de la marque. Un manifeste. S'ensuit l'élaboration d'une stratégie qui va guider le développement de l'identité. Une fois que cette stratégie va être bien consolidée, il y aura tout un travail de rédaction qui va mettre cette réflexion en mots pour le client. Dans le jargon du métier, on appelle ça un manifesto, un manifeste de la marque. Il va identifier la position de la marque, sa mission, ses piliers, ses objectifs. Des pistes de création. ce manifeste va orienter l'élaboration de diverses pistes conceptuelles qui seront proposées aux clients. Ça va guider toute la création, donc le ton avec lequel on va s'adresser à la clientèle cible. La phase de design. Une fois ces pistes validées avec le client, la phase de design proprement dite commence. Là, on va vraiment créer ce logo dont on parle depuis tantôt. On va créer aussi toute l'expérience de la marque. Ça va comprendre tous les différents supports de communication, qu'ils soient imprimés, numériques, expérientiels, etc. La production. Enfin, vient la production de tout le matériel remis au client. Pour un système identitaire qui se respecte, il va y avoir un guide de normes graphiques qui permet, entre autres, au client d'être autonome avec son identité. Ce guide fournira des barèmes et des règles pour l'utilisation du logo, des couleurs, des polices de caractère, selon le contexte et le médium. Vous écoutez « C'est quoi un bon logo et combien ça coûte ?» un texte de Marc Tison, paru le 16 mars 2024 dans la presse. Logo à rabais ? Petite entreprise, petit logo ? Les PME ont moins de moyens, mais ont les mêmes besoins d'identité de marque que les plus grandes entreprises, toutes proportions gardées. Les mêmes principes et la même démarche sont mis en pratique à plus petite échelle. Le défi, c'est d'amener les entreprises à réfléchir à leur branding d'une façon plus stratégique qu'ils ont peut-être l'instinct de le faire, constate Stéphanie Canan, présidente fondatrice de Bang Marketing. Les PME représente 80% de la clientèle de la firme montréalaise qui compte une vingtaine d'employés et 25 ans d'existence. Les petites entreprises, instinctivement, vont être davantage enclines à considérer l'exercice comme purement esthétique, observe sa présidente. Le pire service à leur rendre, c'est de dire « D'accord, on va te faire un logo esthétique parce que c'est ce que tu me demandes. » Ce qu'on essaie de faire avec nos clients, c'est leur faire comprendre qu'un logo, ça fait partie d'un tout. Le logo est un des éléments d'un branding. On a aussi le nom de l'entreprise, son slogan, l'univers graphique qui entoure le logo, les messages clés, la promesse de marque. Tous ces éléments, quand ils sont mis côte à côte, doivent raconter la bonne histoire. Selon Stéphanie Canan. Pour les petites entreprises, les étapes qui mènent au bon scénario graphique demeurent sensiblement les mêmes, mais sont moins approfondies. On fait de la recherche, mais on va regarder sur l'Internet plutôt que d'engager une firme spécialisée pour le faire, décrit Stéphanie Canan. Si on fait des tests, on ne fera pas des tests exhaustifs qui vont prendre 3 ou 4 mois sur tous les types d'applications possibles. Alors qu'un guide de normes graphiques pour une grande organisation peut s'étendre sur des centaines de pages, celui d'une PME pourra n'en compter qu'une quinzaine. Une grande entreprise établira souvent ce que Stéphanie Canan appelle une police de la marque qui s'assurera que les normes graphiques sont respectées à la lettre et cette lettre dans la bonne police de caractère. En PME, il faudra accepter quelques écarts. « C'est un peu normal, dit-elle. Je pense qu'il y a des compromis à faire, mais il faut savoir sur quoi les faire. » Et surtout, sur quoi demeurer intransigeant. On ne peut pas faire de compromis sur les discussions stratégiques, assène-t-elle. Mais après coup, je pense qu'il faut accepter que la marque d'une PME va évoluer, qu'on ne sera pas aussi rigide dans la façon de la gérer. Combien ça coûte, tout ça? Et quelle enveloppe la PME doit-elle prévoir? Si on veut faire une démarche stratégique, refaire son logo, créer un univers graphique et avoir des normes de base, une PME devrait prévoir un budget de 20 000 à 25 000 $. Je pense qu'avec ça, on peut faire toutes les étapes dont on a besoin, effectuer la création et fournir les outils, dit Stéphanie Kenan. Des micro-agences ou des pigistes feront peut-être le travail pour moins cher. C'est un peu difficile pour le client de se retrouver, reconnaît-elle. Mais de toute manière, le travail ne s'arrête pas là. Après ça, il va quand même falloir penser à la déployer, cette marque-là. Il faudra modifier le site web, refaire la papeterie, adapter le matériel publicitaire, peut-être installer une nouvelle enseigne. Dans certains cas, ils ont un graphiste à l'interne ou ils connaissent un pigiste de confiance et ça leur coûtera moins cher de travailler comme ça, indique la présidente de Bang Marketing. D'autres vont vouloir tout confier à l'agence qui a développé la marque. Il y a des entreprises qui vont consacrer 50 000 $ en tout avec la stratégie et un certain déploiement. Certaines vont aller jusqu'à 100 000 $ la première année, selon ce qu'elles ont à déployer. Mais on peut prendre le problème à l'inverse, comme le suggère Catherine Damour, professeure chercheuse à l'école de design de l'UQAM. Quelle enveloppe budgétaire le client a-t-il pour parler de sa marque, de son produit, de son expérience? Ensuite, en fonction de cette enveloppe, le studio, l'agence ou le designer pigiste décide d'embarquer ou pas et de maximiser chaque sou qui va être investi. Ce qui est important, c'est que la PME comprenne la valeur de ce travail. Dans tous les cas, le succès et la satisfaction dépendent de la communication entre l'agence et la PME. On ne peut pas travailler avec la PME si on n'apprend pas à être agile et à l'écouter en respectant sa réalité. Et ce n'est pas la même d'une entreprise à l'autre, conclut Stéphanie Kenan. Il faut ensuite lui expliquer quelles sont les meilleures pratiques. Puis, elle va prendre la décision qui correspond à sa réalité, à son budget, et on va essayer de l'amener le plus loin possible. C'était « C'est quoi un bon logo et combien ça coûte ?» un texte de Marc Tison, paru le 16 mars 2024, dans la presse.